Bonjour Mathieu, bonjour toute l'équipe. Alors j'aime bien cette émission, mais là franchement la chanson qui vient de passer, là ça me fout le soum comme disent des jeunes. Mettez-nous des choses les plus gaies pour nous soutenir le moral avec le climat, la planète, etc. Là il dit je veux pas mourir, etc. Non, non, non. En plus il fait moche aujourd'hui.
Bonjour, c'est Jackie de Limoges. Si vous êtes d'accord pour que les pilleurs d'eau qui pompent les nappes phréatiques continuent à construire des méga-bassines en Poitou-Charentes, en Vendée, bientôt partout en France, alors ne venez pas à Niort le 22 septembre. Si vous voulez combattre ce saccage environnemental, rendez-vous le 22 septembre à 12h, place de la Brèche, à Niort.
Bonjour, je m'appelle Anne. Je vis d'extrême ouest de la Bretagne, en face de Ouessant. Et je me posais une question. Comment se fait-il que Emmanuel Macron traite de passéistes les gens qui refusent Linky, la 5G, ce genre de choses, mais en revanche défendent la chasse à cour au nom des traditions, donc passéistes, il me semble. Voilà. Bonne journée. Merci pour tout et continuez comme ça. Ça fait du bien. Au revoir.
Oui, bonjour. C'est Pierre de Peine du Tarn. Eh bien. C'était pour vous dire quand même que on n'a pas dit que un des créateurs de Greenpeace, c'était Paul Watson, qui a créé ensuite Sea Shepherd parce qu'il trouvait que Greenpeace faisait trop de discours et pas assez d'action sur le terrain, et lui, il pensait que les méthodes radicales étaient plus efficaces. Voilà. Merci. Au revoir.
Salut la Terre au Carré, c'est Paula et je suis entrepreneur sociale et je vous appelle de Paris. Ça fait depuis 2015 que j'organise des événements qui s'appellent les Conscious Festival en Asie et qui arrivera pour la première fois à Paris du 24 au 26 septembre. Le festival aura lieu dans un nouveau tiers-lieu qui s'appelle La Caserne. C'est la plus ancienne caserne de pompiers de Paris, qui fait 4000 m² et rénovée, focalisée sur la filière mode et la transition écologique. Donc on aura des conférences, des ateliers, un marché créateur de l'art et de la musique. Vous pouvez trouver plus d'informations sur www.theconsciousfestival.com et j'espère vous retrouvez nombreux.
Le répondeur de la Terre au carré, 01 56 40 45 45.
Avec la crise écologique en cours, le tout numérique semble être devenu le meilleur allié d'un monde durable. L'immatérialité, l'univers invisible du digital apparaissent comme des réponses solides pour la réduction de nos déchets. Sauf que derrière nos emails, nos likes, nos vidéos en ligne et nos milliards de clics se cache une toute autre réalité, celle de technologies digitales ultra polluantes. Cette face sombre de l'industrie numérique reste encore assez méconnue, alors qu'elle représente un enjeu important pour limiter justement l'impact de nos activités sur la planète. Et c'est le dossier cet après-midi de notre Terre au Carré, avec nos invités que je salue, le journaliste Guillaume Pitron et Florence Rodin, maître de conférence. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue Guillaume Pitron, vous publiez L'Enfer numérique, voyage au bout d'un like aux éditions Les Liens qui Libèrent. C'est une grande enquête sur la réalité justement de notre monde dématérialisé. Et puis Florence Rodin, vous êtes l'autrice d'un autre ouvrage, La nouvelle religion du numérique, sous-titré Le numérique est-il écologique, un essai en forme de pamphlet. Cette pollution numérique, donc on en parle dans un instant avec Message questions qui arrivent déjà sur franceinter.fr, les réseaux sociaux et l'appli France Inter, où vous pouvez aussi, vous le savez depuis la rentrée, nous laisser vos notes vocales. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Avec un dossier dont on a parlé plusieurs fois ici, lié aux Jeux Olympiques de Paris 2024, la construction d'une piscine, d'un bassin d'entraînement et d'un solarium à Aubervilliers, à la place des Jardins Ouvriers. La justice a suspendu les travaux hier.
Voilà pour le sommaire de l'émission, réalisé par Valérie Ayestaraï, préparé aujourd'hui par Anna Massardi avec Léonard Ocan pour les réseaux sociaux et Vincent Désière à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Regarder une vidéo, partager une photo ou envoyer un mail, nos téléphones et nos ordinateurs ont de plus en plus de fonctions et deviennent de plus en plus complexes. Chaque fois que nous les utilisons, nous échangeons des données.
Je ne sais pas comment ça marche, mais je vais sur Internet et puis je regarde ce qui me plaît.
En fait, 99% des communications dans le monde passent par des câbles posés au fond des océans. De la fibre optique par laquelle transitent chaque seconde des milliards de données ce sont les autoroutes de l'information.
Voilà, reportage de TF1 en novembre 2017. Pollution numérique, dossier donc de la Terre au Carré avec vous, Guillaume Pitron et Florence Rodin. Guillaume Pitron, après vos enquêtes sur les matières premières et l'impact environnemental de la voiture électrique, hein, on en a parlé dans l'émission déjà, vous attaquez donc cette fois à l'environnement numérique. Finalement, tout ça a un lien. Qu'est-ce que ça raconte d'ailleurs de vos recherches et des enquêtes que vous menez? C'est quoi le dénominateur commun entre tout ça?
Je pense qu'il y a des grands récits qui permettent au capitalisme, et je ne suis pas anticapitaliste, mais de se maintenir, de se déployer, de prospérer. Il y a un récit vert, dont j'ai déjà parlé précédemment dans un livre, et puis il y a un récit sur la dématérialisation. Et il y a cette grande idée, qui est extrêmement séduisante, que grâce aux technologies numériques, nous allons pouvoir continuer à croître, tout en ayant un impact limité, voire nul sur la planète, puisque tout cela n'existe pas, tout cela est virtuel. Et donc c'est ce grand récit qui, je pense, est un mythe, qu'il fallait, après le mythe du verre, sur lequel il fallait enquêter cette fois-ci.
Florence Rodin, vous êtes donc maître de conférences HDR en système d'information à l'école polytechnique universitaire de l'Université de Montpellier. Vous êtes aussi co-directrice d'une unité de recherche. Comment vous, est-ce que vous êtes intéressée à ce sujet de la pollution numérique ?
Alors, la première fois que je me suis intéressée à ce sujet, c'était quand je suis allée en Chine et pour donner des cours à des doctorants, et où c'était en 2003 et où j'ai eu vraiment un choc de vivre dans une ville polluée, et je me suis dit tiens, qu'est-ce que je peux faire pour l'écologie? Et comment je peux relier ça à mon domaine de recherche? Mon domaine de recherche étant les systèmes d'information à l'époque, personne ne s'intéressait à l'écologie en lien avec les systèmes d'information. Et donc, il me restait 15 jours de cours en Chine et j'ai essayé de faire ce lien très rapidement pour pouvoir enseigner ça à mes étudiants chinois. Ouais. Et après, j'ai fait mon premier article de recherche qui est sorti en 2005, qui s'appelait « Appel à des recherches sur l'écologie et les technologies de l'information ».
Ouais. Mais alors justement, quand on met le nez là-dedans et qu'on découvre cette pollution dont on va parler avec vous, est-ce que ça remet complètement en cause ses propres usages?
Oui, complètement.
Ça a été votre cas, vous ?
Oui, ouais. Bien sûr.
Et alors, concrètement, vous avez fait comment ?
Bah, concrètement,
parce que vous continuez à utiliser les mails, j'imagine, à
oui,
envoyer des documents,
entendu.
À regarder des vidéos.
Bien entendu, mais j'essaye d'avoir les usages les plus vertueux possibles. J'essaye de regarder, je télécharge pas des vidéos en haute définition. J'essaye de regarder en basse définition et j'essaye d'être la plus vertueuse possible dans ce domaine.
Mais justement, par rapport à ce domaine précis, c'est très dur parce qu'en fait, on est entouré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans Internet, on va le dire comme ça, sans télécommunication. Donc, quand on nous dit, par exemple, acheter moins de vêtements, manger moins de viande, c'est des choses qui paraissent presque plus faisables. Là, c'est un nuage qui paraît tellement gigantesque, Guillaume Pitron, qu'on se dit, mais comment est-ce que moi, à mon échelle, même si je vais supprimer mes mails, faire le ménage dans ma boîte, etc., comment c'est possible? Ça paraît nous dépasser totalement, en fait.
D'abord, acheter moins de téléphones portables. Ça, c'est très concret,
ouais.
Puisque l'entrée sur Internet, c'est d'abord ce qu'on appelle une interface, c'est-à-dire un téléphone portable, une tablette, un ordinateur, et c'est responsable de près de la moitié de la pollution numérique.
Voilà, donc là, pardon, je parlais de la pollution matérielle.
Mais elle est déjà pure. Tellement énorme que déjà, on peut déjà agir concrètement dessus en rallongeant la durée d'usage de nos produits. Et ensuite, je dirais, si vous en achetez moins, automatiquement, vous aurez donc non pas le dernier iPhone 46, mais un ancien iPhone. Moi, j'ai un iPhone 7. Avant, j'avais un iPhone 5 que j'avais gardé 5 ans, que j'avais fait réparer 20 fois. Pour tout vous dire, avec un iPhone 5, on a moins envie d'aller consommer des vidéos en ultra haute définition à longueur de journée, tout simplement parce que l'outil donne moins envie de consommer. Donc je pense que moins consommer de ces téléphones portables, moins les changer, c'est aussi du coup avoir un impact sur notre consommation de données.
Ouais.
Et puis quelque chose de très concret, regarder une vidéo sur la Wi-Fi plutôt qu'en 4G chez soi, c'est consommer 23 fois moins d'électricité.
Pourquoi ?
C'est un geste tout simple et c'est énorme. Parce que se connecter à la box plutôt que de se connecter à l'antenne relais, je suis pas un scientifique, hein, mais les calculs, moi, m'ont complètement sidéré. Je croyais que c'était un ratio de 1 à 10, un ratio de 1 à 23 en termes d'électricité consommée. Donc c'est très simple et pourtant, le résultat est pas forcément visible évidemment à l'œil nu, mais les chiffres disent que c'est un vrai résultat positif pour la planète.
Pour aller dans ce sens aussi, 88% des Français changent de téléphone portable alors que l'ancien fonctionne encore. Donc une attitude vertueuse dans la matière, c'est d'essayer de moins renouveler ses équipements, ouais. En sachant que un ado de 18 ans, il a déjà changé 5 fois de téléphone portable. Et ce qu'on constate, c'est que la génération climat, elle va renouveler le plus rapidement que les anciens, les équipements.
C'est donc vraiment une question aussi d'information sur la question, parce qu'il y a ce monde de l'invisibilité qui est aussi invisible pour nous, pour la connaissance. Et ça, il faut absolument mettre la lumière sur cette pollution qu'on ignore beaucoup. Hein, c'est ce que vous dites, Guillaume Pitron. Parce que tout le récit que nous font d'ailleurs les mastodontes du numérique, c'est de nous dire que c'est propre et que ça n'a aucun impact. Hein.
C'est un récit. Alors, c'est vrai que je reviens un instant au téléphone. Bah, le téléphone, il est beau. C'est beau un téléphone, c'est une merveille d'esthétisme, de pureté. C'est comme ça d'ailleurs qu'a
Apple
Steve Jobs
ça,
et de technologie.
Et de technologie. Mais tout cela emballé dans un espèce d'écrin nous fait penser à quelque chose de très pur, de très vierge, de très éthéré. Steve Jobs pensait ses téléphones comme des temples bouddhistes zen au Japon. Et il voulait que ses designers s'inspirent de cette esthétique extrêmement épurée. Or, comment est-ce que ce qui est beau peut être sale à la fois? Et donc ça, c'est compliqué à appréhender. Et puis, toute l'infrastructure dont je parle dans ce livre...
L'inframonde, c'est ça.
Mais l'infrastructure qui est faite de câbles souterrains, de câbles sous-marins, de centres de stockage de données qu'on retrouve jusqu'au fin fond du cercle arctique.
De centrales à charbon,
également des hydroélectriques, hein, les barrages, ce n'est pas neutre. Tout cela, on ne le voit pas. Ça a disparu, on ne sait pas où c'est. Et quand même on le verrait, ce que j'ai aussi compris, c'est que l'industrie, en fait, ne le montre pas. Le sigle Facebook, le sigle Amazon, ces sigles-là sont partout visibles sur la toile, mais dans le monde réel, on ne les voit nulle part. On ne les voit pas. Les centres de données, on ne les voit pas. Ils sont très discrets, ils sont loin, ils se trouvent dans des périphéries. Et en fait, ces entreprises comme Amazon, comme Facebook agissent derrière des sociétés qui ne portent pas leur nom. Facebook, dans le cercle arctique, s'appelle Pinnacle Sweden AB. C'est pas Facebook. Donc en fait, c'est difficile à un moment de mettre de la matérialité, de toucher, de sentir Internet, parce que les entreprises qui font fonctionner cet inframonde, elles-mêmes se rendent extrêmement discrètes et nous font croire, véritablement, c'est organisé comme ça, à un monde qui finalement n'existe
totalement
pas.
Totalement éthéré, voilà, c'est ça. Florence Rodin, pour compléter là-dessus.
Oui, merci de me donner la parole. Il y a une novlangue qui est appliquée. Ouais. On parle de dématérialisation, on parle de virtuel. On parle de société de l'immatériel, alors qu'en fait, c'est comme dans la novlangue de 1984 de George Orwell. Vous savez, il y a le ministère de la paix qui pratique la torture. C'est le ministère de l'amour qui pratique la torture, le ministère de la paix qui pratique la guerre, le ministère de la vérité qui falsifie les archives. Et là, on a la même chose avec le numérique, c'est qu'on a des mots. Mais ces mots ne reflètent pas la réalité. En fait, il n'y a pas du tout de dématérialisation. Il y a une multimatérialisation.
C'est le contraire. On matérialise encore plus finalement nos usages.
Oui, c'est ça, complètement. Si vous prenez une feuille d'impôt, soi-disant matérielle, alors si j'ai une feuille et que je la laisse tomber, elle va tomber tranquillement, doucement, par terre, elle ne va pas faire trop de bruit. Maintenant, si j'ai la même feuille d'impôt qui est sous forme soi-disant dématérialisée, en fait, elle est dématérialisée comment? Elle est sous forme de 0, de 1, elle est peut-être dans mon ordinateur, sur un disque dur, peut-être sur une clé USB. Imaginez que je laisse tomber mon ordinateur par terre. Mon ordinateur, il va faire du bruit, il va exploser. Vous allez dire, ça, c'est pas de la matière? C'est pas de la matière, ça, ce plastique qu'il y a là, l'électronique qu'il y a là, tous les métaux lourds qu'il y a. Non, bien sûr que c'est de la matière. Bien sûr que c'est de la matière. Donc, on ne peut pas parler de dématérialisation, il faut parler de multimatérialisation.
Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure quand même, mais il y a une forme de... C'est horrible, en fait, c'est affreux d'entendre tout ça, parce qu'on culpabilise à fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va en être à se dire, oh là là, j'ai plus le droit de cliquer sur un like, j'ai plus le droit de cliquer sur un article. Est-ce que là, pour le coup, c'est pas quelque chose qui vient nous dépasser? Vous parlez, Guillaume Pitron, des entreprises. Est-ce que c'est vraiment pas quelque chose qui dépend aujourd'hui des entreprises plus que des utilisateurs qui, de toute façon, sont presque obligés aujourd'hui? On a, par exemple, Aurélie sur Facebook qui nous écrit... Que vaut un like par rapport au streaming, au scrollage infini ou à Netflix? Aujourd'hui, les utilisateurs ne savent même plus quoi faire finalement.
En plus, c'est difficile parce qu'on a du mal à formaliser et à calculer cette pollution. Ouais. Et j'en suis venu à réaliser que personne ne sait réellement, globalement. Alors, il y a des chiffres sur lesquels il y a un relatif consensus, mais aussi des chiffres sur lesquels il n'y a pas de consensus.
Mais un like, par exemple, on ne sait pas.
J'essaie de savoir, j'arrive pas à savoir. Même un email, figurez-vous. Alors, c'est drôle parce qu'on parle d'apprentissage profond, on parle de supercalculateur, on est en train de parler d'informatique quantique, et personne ne sait le coût d'un email et d'un like. Parce que je pense qu'on ne veut pas le savoir, et donc on a repoussé l'étude de ce chiffre. C'est très difficile. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'un like, ça coûte rien. Je veux dire, c'est extrêmement, l'impact c'est insignifiant. Mais il faut le rapporter aux milliards de milliards de milliards de likes qu'on s'envoie. La vidéo en ligne est beaucoup plus impactante sur l'environnement. Donc c'est ce que disait Madame Rodin. Il faut en fait moins regarder des vidéos avec une définition qui soit moins forte, surtout sur un téléphone portable. Finalement, ça change rien. Ça change rien une basse définition par rapport à une autre définition sur un portable. Mais oui, en fait, c'est très difficile de percevoir cela. Ce que je crois aussi, c'est vraiment pour répondre à votre question, Camille Cronier. En fait, c'est bien de se dire, il va falloir que je nettoie ma boîte mail, il va falloir que je vide mon iCloud qui est devenu une poubelle avec plein de vidéos dessus dont je me sers plus. En fait, on est en train d'arriver, c'est ce que j'ai découvert aussi, dans un Internet des machines. Les machines vont produire de la donnée et elles produisent aujourd'hui plus de données sur Internet que les hommes eux-mêmes. Et l'Internet de tout, c'est-à-dire la connexion du végétal à l'animal, aux hommes, aux objets connectés, c'est l'Internet de tout, c'est déjà annoncé par les technoprophètes. C'est l'Internet dans lequel, si je commence à vider mon email tous les soirs en pensant faire une bonne chose, c'est comme si je vidais l'océan à la petite cuillère. Parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est un Internet qui est un Internet fait pour les robots, par les robots, avec des algorithmes partout, et sur lesquels les questions qui se posent sont plus de l'ordre de qu'est-ce que je fais au quotidien, mais sont des questions systémiques, des questions sociales, des questions politiques.
Et ça, on n'a vraiment pas la réponse pour l'instant, vu qu'on s'embarque dans un monde qui va se déployer encore plus avec l'Internet des objets.
C'est schizophrène. La loi française dit il faut aller dans la direction de la sobriété, de l'autre, nous accélérons vers cet Internet-là.
Allez, la pollution numérique, c'est le dossier cet après-midi de la Terre au Carré, et vos messages qui arrivent sur l'appli France Inter et sur les réseaux sociaux, justement. Avec la voix de Courtney Barnett.
La Terre au carré sur France Inter.
La comparaison est saisissante. Un mail envoyé consomme autant d'énergie qu'une ampoule basse consommation pendant une heure. Quand vous voulez ajouter une pièce jointe, on passe même à 1h30. Leur impact est forcément négatif pour la planète. C'est pourquoi Greenpeace lance aujourd'hui un appel pour une utilisation plus responsable d'Internet. Dans le collimateur de l'association, les mails, le stockage de photos et le visionnage de vidéos. D'après certaines analyses, la vidéo Gangnam Style, la plus visionnée de l'histoire de YouTube, induit une demande d'électricité équivalente à la consommation annuelle de deux petites centrales.
Voilà, et ça c'était en 2017, avec déjà la demande de Greenpeace pour une utilisation plus responsable d'Internet. Qu'en est-il aujourd'hui, Guillaume Pitron? Parce qu'on a l'impression que vraiment il y a un problème d'information sur cette question.
C'était avant le Covid, Mathieu Vidard.
Ouais.
Donc pendant le Covid, nous avons été sur Zoom pour des réunions et nous avons pris des apéros sur WhatsApp avec nos amis, donc je pense que la question est encore plus importante.
Justement, écoutez la question de cette auditrice à ce sujet.
Bonjour, c'est Aline dans les Hauts-de-Seine, je suis fonctionnaire, je travaille dans une direction du développement durable. Et donc, suite à la crise du Covid, je me pose la question de savoir si le télétravail est vraiment un bienfait pour l'environnement. Moindre utilisation des transports, c'est évident. Mais est-ce que la démultiplication des usages du numérique, de la visio en particulier, ne sont pas aussi un gros coût environnemental qui ferait que finalement le télétravail est plus un coût qu'un avantage pour l'environnement? Je vous remercie par avance et à bientôt.
Voilà, c'est bien ce que vous posez la même question, mais il va falloir lui répondre, Guillaume Pitron, à notre auditrice.
Je pense que vous avez la réponse aussi.
Alors, Florence Rodin, la balance alors entre prendre des transports pour aller bosser ou rester chez soi et utiliser massivement le numérique.
En fait, en termes de télétravail, le télétravail, c'est pas forcément la panacée qu'on voudrait bien vouloir. L'image qu'on voudrait lui faire avoir, puisque tout dépend des situations. Le télétravail, en tout cas, c'est rentable pour l'organisation, puisque les télétravailleurs sont performants. Ça a été montré. Par contre, ce que la recherche en écologie industrielle montre aussi, c'est que, suivant les études, le télétravail, ça fonctionne ou ça fonctionne pas pour l'environnement. Ça fonctionne si le télétravailleur n'a pas de bureau attitré dans l'organisation. Là, c'est positif pour l'environnement. Par contre, si le télétravailleur a un bureau attitré dans l'organisation et que, par exemple, il profite du fait qu'il soit en télétravail pour aller habiter plus loin et qu'il vienne juste une fois par semaine au travail, à ce moment-là, c'est négatif du point de vue de l'environnement. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le télétravailleur, il a besoin d'interactions sociales. S'il ne se déplace pas pour aller au travail, les études à long terme, elles montrent qu'il va se déplacer, mais pour une autre raison. Il va se déplacer pour aller au cinéma, il va se déplacer
pour aller au centre. Donc la compensation dont on a parlé sur les déplacements quotidiens, par exemple,
forcément,
en voiture, ça marche pas.
Alors, bon, par contre, sur la période Covid, ça fonctionne pas, puisque bon, c'est une situation exceptionnelle où de toute façon on n'avait pas le droit de sortir. Donc là, il n'y avait pas de transport. Donc là, effectivement, d'un point de vue environnemental, c'est positif. Dans la période Covid, c'est positif. Mais là, je parlais en général pour le télétravail.
Guillaume Pitron, il y a quelque chose moi qui m'a beaucoup intéressé dans votre livre. D'abord parce que vous faites une analogie que j'aime bien avec la matière noire de l'astrophysique, hein, pour aller justement explorer la matière noire de l'immatérialité, en parlant d'une expansion de l'univers justement numérique, mais surtout en essayant d'évaluer l'ensemble des ressources qui sont mobilisées pour la fabrication d'un objet. Parce que ça, c'est vraiment tout ce qu'il faut prendre en compte. On en parlait d'ailleurs avec la voiture électrique, c'est pas seulement cette voiture qui pollue moins sur la route, c'est tous les ingrédients qui ont servi à la construire. Et pour le numérique, c'est exactement la même chose. Pour nos objets, il faut vraiment faire tout ce calcul.
En fait, Mathieu Vidard, sur la table, j'ai un verre d'eau, j'ai un casque, j'ai une bouteille d'eau, et en fait, une carafe, excusez-moi, ce verre d'eau pèse beaucoup plus lourd que le poids que l'on a entre les mains. Parce qu'il a fallu fabriquer, il a fallu mobiliser de la matière, un morceau d'arbre peut-être, pour pouvoir fabriquer ce verre qui est en papier.
Alors un ordinateur, concrètement, un ordinateur de 2 kilos, qu'est-ce qu'il y a derrière?
Et donc en fait le ratio pour un verre est peut-être de 1 à 10, de 1 à 20, de 1 à 30. Mais quand on va vers des technologies numériques qui contiennent des métaux, qu'il a fallu extraire dans le sol, des métaux souvent très dilués, ce ratio passe à non pas 20 pour 1, mais 1000 pour 1, 2000 pour 1, 3000 pour 1, et pour une puce électronique 16 000 pour 1. Donc ça veut dire qu'en fait, plus on fait des objets qui sont dématérialisés, qui permettent d'aller dans le virtuel, plus on matérialise.
Donc
plus
c'est virtuel, plus c'est électronique, c'est 2 grammes, c'est ça? Mais en réalité, c'est 32 kilos de matière, c'est ça?
En fait, ce sont les études, alors on peut après discuter des chiffres, mais les études sérieuses montrent qu'effectivement, il y a 16 000 fois plus de matière en amont du processus industriel. La puce électronique, Mathieu Vidard, c'est un objet qui résume à lui tout seul la mondialisation. Il y a plus de sous-traitants pour fabriquer une puce dans le monde qu'il y a de sous-traitants pour fabriquer un Boeing 747.
Vous dites 16 000 sous-traitants, c'est ça, pour une puce électronique?
Tellement c'est compliqué. Ouais. Donc en fait, c'est vous dire à quel point, en fait, plus on va vers des objets qui sont petits, agréables à porter, légers, qui se glissent dans la poche, plus paradoxalement leur coût matériel est élevé. Et c'est très contre-intuitif, mais c'est ça le numérique.
Un message de Florent sur l'application France Inter. Et il nous écrit « J'entends les invités qui parlent d'utiliser du vieux matériel. Oui, encore faut-il que l'offre soit adaptée, logiciel peu gourmand. Il paraît par exemple que l'application France Inter n'est pas installable sur des mobiles un peu anciens. Il y a cette question, le matériel peut encore techniquement fonctionner, mais le contenu finalement ne marche plus au bout d'un moment, Florence Rodin. »
Oui, ben on est dans une société capitaliste où il faut que les outils soient renouvelés très régulièrement, où il faut toujours de l'innovation.
C'est une forme d'obsolescence.
Obsolescence logicielle, oui.
Obsolescence logicielle. Oui.
Sur mon iPhone 5, à un moment, je pouvais plus faire fonctionner certaines applications sur mon iPhone 5, donc j'étais tenté de changer d'iPhone juste pour pouvoir retélécharger la nouvelle version d'une application qui ne fonctionnait plus. Donc en fait, je vais jeter l'objet qui fonctionne bien, parce qu'en fait, c'est l'incompatibilité entre l'objet et le logiciel qui le fait fonctionner.
C'est là où il y a le systémique qui...
Et c'est là aussi que nous, en tant que consommateurs, c'est difficile de lutter contre ça. Après, vous pouvez... Alors, il y a des lois qui sont en train de passer, le législateur dans les pays occidentaux prend conscience de ce problème-là, voudrait imposer justement que cette obsolescence logicielle soit moins pratiquée. Donc voilà, il y a des combats qui sont menés et qui peuvent aussi être menés d'un point de vue militant. Il y a une association qui s'appelle Halte à l'obsolescence programmée, HOP en France, qui précisément s'intéresse à ces questions-là.
C'est en 2018, le Shift Project, un think tank français qui mettait vraiment les pieds dans le plat en disant tout simplement que la transition numérique telle qu'elle est actuellement mise en œuvre participe au dérèglement climatique plus qu'elle ne l'aide à le prévenir.
En fait, ça, c'est une affirmation qui est extrêmement forte et la plus radicale. Vous avez en fait dans cette industrie des gens qui vont vous dire que le numérique va sauver la planète, parce que par ailleurs, il peut avoir des impacts positifs, il faut bien le dire. Et vous avez à l'autre extrême, le Shift Project qui affirme ça, qui est le seul, à ma connaissance, groupe de réflexion à avoir affirmé cette chose de façon si radicale. Et entre les deux, il y a l'éventail des analyses. Ouais. Et moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, on ne savait pas.
Florence Rodin.
Oui, je voudrais citer le Haut Conseil pour le climat qui a sorti un rapport en décembre 2020 sur maîtriser l'impact carbone de la 5G, qui condamne le fait qu'on n'a pas fait d'études d'impact environnemental pour le déploiement de la 5G, mais le Sénat, dans un rapport, le condamnait également. Et dans ce rapport-là, le Haut Conseil pour le climat montre que la 5G va avoir un impact environnemental fort et que ça va pas sauver la planète.
Avec justement le développement de l'Internet des objets qui va utiliser abondamment cette 5G. Allez, on se retrouve dans un instant. D'autres questions pour vous sur le site de La Terre au Carré.
France Inter. La Terre au Carré.
Et à 14h30, Camille passe au vert, Camille Cronier.
Et je vous reparle aujourd'hui de quasi-centenaire, né au milieu des années 20, année 1920, évidemment, les jardins ouvriers de la ville d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Sujet lié aux Jeux Olympiques Paris 2024, parce que une partie des jardins doit être remplacée d'ici 2024, donc, par un solarium et une salle de fitness attenant à une piscine d'entraînement qui, elle, sera construite sur un parking déjà existant. 4000 mètres carrés de destruction au total qui ont abouti à une lutte sur place dans les jardins et à une lutte judiciaire au tribunal, je vous ai déjà raconté. Et donc, si je vous en reparle aujourd'hui, c'est qu'il y a du nouveau. Le permis de construire vient d'être suspendu par la Cour d'appel administrative de Paris.
Ah, le message est énorme. On est presque un peu sous le choc, en fait.
Alors là, c'est Dolores. Dolores, elle est locataire d'une parcelle des jardins dans la partie préservée, heureusement pour elle. Et Dolores, c'est une figure de la mobilisation.
Si tu veux, ce matin, on s'est pris les uns les autres dans les bras. On était super contents. Moi, c'était mon anniversaire hier, figurez-vous.
C'est un beau cadeau, alors.
C'est un super cadeau d'anniversaire, parce que ni cette année, ni l'année dernière, j'ai fait de fête d'anniversaire. Tellement ce qu'on... J'allais dire, la lutte pour les jardins occupe notre temps, en fait, occupe notre existence.
Tout sourire donc avec une trentaine d'autres personnes hier soir lors d'un rassemblement sur le parvis de la mairie de Paris avec une banderole « Des potirons, pas du béton » déployée juste devant les anneaux olympiques.
Aujourd'hui, on vient aussi dire à Anne Hidalgo, faut arrêter de laver ton linge sale pour Paris 2024 dans la banlieue. C'est pas la banlieue des potoirs. Et c'est le lieu où on invente le monde de demain et pas le fichu monde d'après pourri.
Alors la maire de Paris montrait du doigt puisqu'elle porte le projet des Jeux Olympiques, mais Mais là, dans l'affaire, c'est la mairie d'Aubervilliers qui est mise en cause. Le juge administratif émet des doutes sérieux, je le cite, sur la légalité du permis délivré sans respecter certaines règles d'urbanisme par l'UDI Karine Franklé, qui réagit dans un communiqué en se défaussant sur la municipalité précédente.
Et elle dit ceci, je regrette sincèrement que le projet initial retenu par ma prédécesseure ait empiété sur une partie des parcelles de jardins ouvriers, mais avec mon équipe, nous avons tout fait et nous avons obtenu qu'il soit reconstitué au mètre carré près. La ville d'Aubervilliers entend défendre les subventions qui lui avaient été attribuées par l'État, organisera un conseil municipal exceptionnel pour résoudre le problème soulevé par le juge sur le défaut d'habilitation à présenter le permis de construire au nom de la commune, se pourvoira en cassation auprès du Conseil d'État sur la demande de suspension de l'exécution des travaux dans l'attente du jugement principal.
Voilà, la maire ne veut pas lâcher, car elle l'avait déjà expliqué, ça pourrait coûter cher à la ville, et l'équipement en plus, dit-elle, servira à terme aux habitants. D'ici là, le pourvoi en cassation, donc les travaux sont donc suspendus, mais ça ne veut pas dire l'arrêt total du projet. D'ailleurs, sur un autre dossier, la construction du village média, toujours en Seine-Saint-Denis, s'était passé la même chose au printemps, suspension puis reprise du chantier après tenue d'une audience sur le fond. Bref, rien n'est joué et un élu parisien écologiste présent hier au rassemblement, Nour Durand-Rocher, était moins joyeux que les autres parce que de toute façon, les bulldozers, dit-il, sont déjà passés dans les jardins.
C'est une catastrophe que l'annulation elle ait eu lieu après la destruction. On a 4000 m² de jardins qui ont été détruits. Et là, on a détruit quelque chose qui est un patrimoine. C'est une catastrophe. Même avec la décision de justice, c'est une catastrophe.
Mais Dolores, elle, reste optimiste.
Les bulldozers sont passés, ils ont tout détruit. J'allais dire, ils ont détruit la vie. Mais reste la terre. Reste la terre. On pourra encore, enfin nous, on espère encore sauver cette terre. Et que le béton ne coule pas sur la terre. En fait, c'est ça qu'on veut.
D'où le fait que c'est une grosse victoire.
Ah, d'où le fait que pour nous, c'est une énorme victoire. C'est une énorme victoire. Et on est hyper déterminés, quoi. On lâchera rien.
La suite donc au prochain épisode, puisque donc la bataille des jardins n'est clairement pas terminée.
Et si cette affaire vous inspire, eh bien vous pouvez également réagir sur le répondeur de la Terre au Carré au 01 56 40 45 45. Camille passe au vert à réécouter donc sur franceinter.fr. Allez, la pollution du numérique, c'est le dossier de l'émission cet après-midi. Orléans, c'était la femme.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Et encore, on est en journée, imaginez ça le soir, comment c'est dérangeant, c'est vraiment insupportable. Et c'est ça quotidiennement, et vraiment du matin au soir.
Un bruit encore plus fort l'été, quand les 20 moteurs du système de ventilation tournent à plein régime. En septembre dernier, la préfecture a enregistré une nuisance sonore 6 fois supérieure au maximum légal. Comme Étienne, les 100 riverains concernés ne croient plus aux promesses du propriétaire du data center. La société Zayo France, que nous avons contactée, nous confirme que des travaux sont en cours jusqu'en juin prochain.
Au lieu de se dire « je produis de la chaleur, je refroidis », c'est très simple. Je produis de la chaleur, je l'utilise. Vous branchez des tuyaux que vous raccordez à un système de chaleur, soit de logement, soit un système de chaleur de l'eau, et vous avez l'électricité produite par les data centers qui chauffe un quartier quand c'est des méga data centers ou un îlot d'immeubles quand ce sont des petits data centers.
Alors la question des data centers, elle est aussi au cœur de votre livre, Guillaume Pitron, L'enfer numérique, voyage au bout d'un like aux éditions Les Liens qui Libèrent. Et puis Florence Rodin, avec la nouvelle religion du numérique, et bien évidemment il faut en parler parce que finalement le data center c'est un peu le royaume du cloud, hein, ce royaume du soi-disant invisible, du soi-disant monde invisible. Et on apprend en vous lisant que des data centers, il y en a même dans le centre de toutes les grandes villes, hein, et à Paris par exemple.
Il n'y a pas d'internet sans centre de données, sans data center. Nous nous connectons en permanence, non pas au téléphone du voisin, mais en fait à un data center. Et chaque jour qui passe, en fait, nous nous connectons à peut-être une centaine de data centers, dit un expert dans le livre. Ces data centers, ils se trouvent un petit peu partout dans le monde, ils sont éparpillés, il y en aurait 3 millions selon l'ADEME, notamment des très gros, le plus gros, paraît-il, en Chine, fait la surface de 110 terrains de football, tout ça pour les données, bien sûr. Et historiquement, on trouve toujours des data centers à Paris, dans le quartier du Sentier, boulevard Voltaire, derrière des immeubles. Ça ne se voit pas. On est passé devant des dizaines de fois, peut-être, sans savoir qu'en fait, derrière, il y a des usines à données.
Mais il y en a partout. Hein. Il y en a à Marseille, enfin, dans toutes les villes, évidemment. Il faut des data centers pour stocker nos données. Hein.
Et beaucoup à Marseille, parce que Marseille est une ville par laquelle transit arrive, notamment certains câbles optiques, notamment les câbles optiques qui viennent de la Chine pour un câble qui va arriver en 2022, le PIS. Et donc, en fait, qui dit câble dit naturellement centre de stockage de données privilégié. Donc Marseille est une ville importante.
Avec un déluge de data, 5 exaoctets par jour, soit autant que toutes les données produites depuis le début de l'informatique jusqu'en 2003. Donc ça consomme énormément. C'est très énergivore.
Marine sur Instagram nous pose cette question, Florence Rodin. Donc on doit plus culpabiliser pour notre consommation d'objets numériques que de vols d'avion. Comment est-ce qu'on compare la pollution numérique et la pollution souvent décriée des transports aériens?
Ben aujourd'hui, le numérique consomme pollue un tiers de fois plus que l'aviation civile.
On en est sûr parce que encore une fois, les chiffres sont.
Ah non, mais on est absolument sûr. L'industrie lourde du numérique pollue plus que l'aviation civile.
Qu'est-ce que vous appelez l'industrie lourde alors finalement?
Parce que je dis exprès industrie lourde pour parler de matérialisation, pour sortir de cette idée de virtuel. Puisque vous parlez de data center, on parle de nuages, on parle de cloud, et ça fait penser à quelque chose d'évanescent, quelque chose qui est dans les airs, quelque chose qui est virtuel, alors qu'en fait c'est bien dans le sol. Donc nos données et d'ailleurs ces data centers souvent ils sont encore alimentés par du charbon. Donc quand ils sont alimentés par du charbon, le nuage est noir et là il faut une bonne pluie pour nettoyer ce. Mais oui, donc pour revenir à votre question, on culpabilise les gens parce qu'ils prennent l'avion, mais on les culpabilise absolument pas parce qu'ils cliquent, parce qu'ils chattent, parce qu'ils likent. Mais pourtant ça produit. Ça produit du CO2.
Il y a une question toute simple de Marika sur Instagram. Est-ce qu'il vaut mieux imprimer sur papier ou afficher sur tablette? Vous en parlez justement sur les liseuses par exemple.
Oui, tout à fait.
Alors,
en fait, il y a une étude passionnante qui a été faite par le cabinet Carbone 4 qui fait la comparaison entre un livre papier et un livre numérique. Qu'est-ce qui est plus intéressant pour la planète? Lire un livre papier ou lire un livre numérique? Alors, l'étude Carbone 4 montre que ça devient rentable du point de vue de la planète de lire sur une liseuse à partir du 137e livre lu. Donc, si vous lisez à partir du 137e livre, ça vaut le coup d'avoir une liseuse. Si vous lisez moins que 137 livres, ça vaut pas le coup d'avoir une liseuse, vaut mieux acheter les livres.
Donc Agnès et Marilène, par exemple, s'interrogent, elles, sur certaines régions qui tendent au tout numérique pour les lycéens, les manuels scolaires remplacés par des tablettes. Qu'est-ce qu'il faut en penser?
Alors... Ce que j'en pense, c'est que des études en sciences de l'éducation montrent que notre cerveau, il est plus apte à appréhender un format papier que le format sur écran. Et que des études ont montré que les étudiants réussissent mieux dans certaines matières.
Oui, mais d'un point de vue environnemental. Là,
d'un point de vue environnemental. Mais moi, je vais vous citer une étude que j'ai faite. J'ai une doctorante qui a travaillé sur ce sujet pendant 5 ans. Elle a étudié les tablettes qu'on distribue dans les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce. Elle, pendant 5 ans, dans les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs, on distribue des tablettes gratuitement aux étudiants quand ils rentrent en première année. Et ce que j'ai posé comme question à mon étudiant, c'est de voir qu'est-ce qu'on fait réellement avec ces tablettes. Alors, elle s'est posée pendant 1600 heures, elle a observé le comportement des étudiants, elle s'est mise au fond des salles de classe, elle s'est mise au fond des amphis, et elle a observé ce qu'ils faisaient réellement avec la tablette. Et vous voulez savoir ce qu'ils font réellement avec la tablette? Pendant 1h30 de cours, ils se distraient avec la tablette pendant 1 heure. Pendant un quart d'heure, ils l'utilisent en lien avec le savoir, pas forcément le cours, et pendant un quart d'heure, ils l'utilisent pas. Et quand ils l'utilisent pour se distraire, ils l'utilisent pendant 18 minutes pour se connecter, pour être sur Facebook, pendant 17 minutes pour jouer à des jeux vidéo, pendant 10 minutes pour regarder des vidéos, pendant 8 minutes pour chatter sur Messenger, et pendant 8 minutes pour surfer sur le web. Donc voilà ce qu'ils font de ces outils-là. Et quand vous montrez ces chiffres à ces décideurs, on va vous dire les profs n'ont pas suffisamment investi la tablette, il faut toujours plus de tablettes. Mais ce qu'on voit concrètement, c'est que si vous donnez une tablette aux jeunes, ils vont chatter, ils vont liker, ils vont jouer avec, ils vont s'éloigner du savoir.
Donc mauvaise idée, vous dites.
Mauvaise idée.
On écoute la note vocale de Juliette de Bordeaux.
Bonjour à tous, je travaille dans les énergies renouvelables. Et encore une fois, j'ai l'impression d'entendre encore et toujours le même refrain un peu de culpabilisation du consommateur, comme disait une auditrice, et Netflix et Facebook. N'y a-t-il aucun moyen législatif pour faire avancer la réglementation? Et est-ce que certains pays, est-ce que des politiciens, politiciennes ont déjà envisagé de légiférer et de taxer, même si c'est un gros mot, les entreprises qui nous abreuvent de technologies à outrance et de scrollage? Est-ce qu'on peut avoir des solutions d'un point de vue juridique? Parce que tant que c'est légal, nous, consommateurs, je vous remercie.
Merci pour votre question, Juliette. C'est une vraie question, évidemment, hein, Guillaume Pitron.
Alors, c'est vrai que la question de la culpabilisation, elle est compliquée parce que... Ce sont aussi des enjeux passionnants, et en tant que journaliste, c'est passionnant d'aller remonter le cloud et de voyager à travers le monde pour raconter cela. Ce sont des enjeux qui sont importants, qui sont graves.
Mais celle du contrôle aussi.
Et en même temps, il faut pouvoir en parler, et puis je suis prêt à mes contradictions, Mathieu Vidard, parce que mon livre, L'Enfer numérique, il est accessible sur des plateformes d'achat en ligne, et puis la version numérique aussi est disponible.
Non, mais est-ce qu'il faut légiférer alors maintenant?
Mais oui, il faut légiférer, et il y a déjà des lois qui ont été passées. D'ailleurs, il y a une loi en France qui sera probablement votée en novembre, à l'initiative d'un parlementaire LR. Monsieur Patrick Chaise, si je ne me trompe pas, et qui surtout a une série d'aspects qui concernent le rallongement de la durée de vie des produits, qui concerne justement la simplification des contenus numériques avec ce qu'on appelle le design éthique des produits, des interfaces, des sites web, de façon à alléger la bande passante, notamment sur ces deux aspects-là. Mais on peut aussi parler de ce que la loi propose sur la moindre consommation d'électricité, des data centers, etc. Ces lois sont en train d'être passées, donc on réagit. Certes tard, mais effectivement, il y a tout un cadre législatif qui progressivement vient rattraper cette pollution qui nous avait un peu échappé jusque maintenant.
Et vous pensez vraiment, Florence Rodin, que ça va freiner la pollution numérique, ça, ces lois?
Oui, je pense. J'ai participé aux travaux du Conseil national du numérique pour créer une feuille de route qui s'appelle Environnement et numérique, avec 50 mesures qui ont été remises au gouvernement une saisine du gouvernement. Et justement, et dedans, il y a 50 solutions possibles, dont le taxer l'impact environnemental du numérique pour répondre à la question de l'auditrice. Et puis aussi peut-être rendre obligatoire pour les grandes entreprises la remise d'un bilan relatif à la quantification des impacts environnementaux du numérique, plus tout un tas de mesures pour lutter contre l'obsolescence programmée, pour Par exemple, aussi faire, on a proposé une campagne d'affichage publicitaire comme fumer tu. On pourrait aussi penser à faire ce genre de campagne, aussi de demander, sensibiliser les gens pour qu'ils renouvellent moins leur équipement. Mais effectivement, il faut, on ne peut pas culpabiliser que l'utilisateur. Il faut que d'un point de vue, l'État réagisse, l'État régule. Il faut une régulation étatique absolument.
Sur le non renouvellement de l'équipement, on a beaucoup de messages qui vont tous dans le même sens au sujet des banques. Brigitte nous écrit par exemple, j'ai un vieux téléphone portable avec une version qui ne me permet pas d'installer l'application de ma banque obligatoire en fin d'année au regard des nouvelles dispositions européennes sur la sécurité bancaire. Donc, je vais être obligée de changer mon portable, ce que je trouve scandaleux. On a Camille aussi qui nous écrit exactement au même sujet sur cette histoire de banque. Il y a un moment, les utilisateurs sont coincés, encore une fois, Guillaume Pitron.
Oui, alors là, paradoxalement, c'est plutôt pour une bonne raison. C'est-à-dire que l'application de la banque, c'est parce qu'il y a des problèmes de sécurité à la connexion. Et en fait, les mises à jour pour la nouvelle application de la banque, c'est une mise à jour de sécurité. Ce qui est peut-être encore acceptable. Mais effectivement, vous avez raison, ça montre bien ce qu'on appelle l'obsolescence logicielle, c'est-à-dire que votre téléphone fonctionne et en même temps, eh bien, vous avez en fait un operating system, comme on dit, le software OS, qui lui en fait n'est plus compatible avec le téléphone. Et là, en tant que consommateur au quotidien, je ne saurais pas comment faire par rapport à cette question précise, sinon de devoir changer ce téléphone.
Stéphane nous demande justement si vous auriez des sites références qui pourraient donner des indications sur le coût écologique des visionnages de vidéos ou donner des conseils, et notamment aussi pour sensibiliser les adolescents. Est-ce que ça existe, ça, Florence Rodin ou Guillaume Pitron?
Greenit.fr.
Green quoi ?
Greenit.fr, GREENIT.fr. Beaucoup de contenu, d'informations sur ce site. L'ADEME également a publié un livre, je crois que c'est un livre blanc qui s'appelle La face cachée du numérique, je crois, qui fournit également beaucoup de chiffres. Voilà, je dirais sur ces deux sites-là, au moins pour essayer d'avoir les premières informations, sachant qu'encore une fois, c'est la jungle. Dès qu'on commence à se plonger dans les chiffres de cette industrie, on est au tout début de la compréhension micro et macro de ce que ça représente. Donc, moi je dirais, voilà, Greenit et ADEME.
Il y a des pays comme l'Estonie qui ont fait le pari justement du tout numérique. Est-ce que ces pays aujourd'hui qui ont été très en avance à l'époque commencent à remettre un peu les choses en cause et ont une vraie réflexion sur la pollution qu'ils peuvent engendrer ou pas du tout ?
Pas du tout. J'y suis allé à Tallinn, l'état le plus digitalisé de la planète. Faut pas oublier aussi que lorsque l'administration se réinvente à la suite de la chute de l'Empire soviétique, cet ancien pays qui faisait partie du bloc décide en fait de passer au tout numérique parce que c'est une façon aussi de jouer la transparence. Donc il y a toute cette recherche culturelle de la transparence après naturellement des décennies de soviétisme. Et c'est un État qui se vante de cette digitalisation, qui sait justement faire valoir son soft power, sa réputation très positive au service de pour attirer des travailleurs numériques, des e-résidents, etc. Et non, la question ne s'est absolument pas posée quand je suis allé sur place de savoir comment est-ce qu'on faisait tourner toute l'infrastructure derrière. Non, c'est pas là-bas que j'ai répondu à cette question.
Allez, on se retrouve dans un instant. Poursuivez vos questions et vos notes vocales sur l'appli France Inter. On vous écoute bien sûr en direct pour parler pollution numérique avec nos invités.
J'étais encore un enfant quand on s'est rencontrés. J'ai mis mon adolescence à comprendre combien je t'aimais. Le jour où je t'ai roulé ma première galoche, tu m'as tapé dans l'œil avant que j'étais dans la poche. Depuis, ma vie se résume à une course poursuite. Chaque fois que je tente de t'effleurer, dis-moi pourquoi tu prends la fuite. Avec toi ça va, ça vient, sans toi je suis un vaurien. En avoir pour son toit j'aimerais tant. D'ailleurs le temps c'est du toit. Du chagrin je n'ai gros sur la patate. Je croque de toi sauf quand tu craques. J'ai les bourses qui se rétractent. Ta courbe croissante m'enchante. Mais ta chute de rein me donne des vertiges et des crampes. T'es la personne la plus ouverte, tu connais pas de frontières. Tu parles toutes les langues et sais briser les barrières. Snob, la pauvreté te fait horreur. Je t'offrirai tous les parfums, toi qui n'as pas d'odeur. Tu me fais pas de bonheur, procure du plaisir. Et plus je te désire et plus tu me fais courir. Je te tire mon chapeau et tu m'en fais baver les rondes pièces. Je t'aime autant que je te déteste. T'es fraîche et bien roulée, pépette. Tout le monde te court après et j'arrive toujours le dernier. Tu me fais tourner la tête. Arrête de jouer à cache-cache ou je finirai par te coffrer. T'es fraîche et bien roulée, pépette. Tout le monde te court après et j'arrive toujours le dernier. Tu me fais tourner la tête. Arrête de jouer à cache-cache ou je finirai par te coffrer. Arrête, je suis franc, j'en veux pas qu'à ton écu, poupée. Quand apprendras-tu à te poser? Ne me quitte pas, il est paraît-il de placement fertile. Donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Je ferai un domaine où tu seras reine, où tu seras loi. Et même si ce domaine existe déjà, imprévisible,
soudain visible. D'autres t'ont pris pour cible. Reviens dans mes bras, pour toi je serai crédible. Au bal je t'ai invité à ma table et tu m'as snobé pour aller danser avec un notable. Pendant que je me faisais biaiser, d'autres avaient déjà appris à savoir léser. Au début j'étais rongé par la jalousie, et puis j'ai bien vite compris que tu ne ferais jamais le bonheur d'autrui. Toutes ces formes font rêver, mais dans le fond y'a rien. Un palpable liquide tu fonds dans leurs mains. À peine ils tombent, tu lorgnes déjà sur les voisins. Tu les rends possessifs, jaloux, radins et mesquins. T'es parti à la conquête du monde entier, et le monde entier a succombé à tes charmes de papier. Aujourd'hui le monde entier est à tes pieds, mais t'es plus que jamais malheureuse comme les blés. T'es fraîche et bien roulée, pépette. Maintenant t'es fade et fardée. Tu donnes le bras à des riches, pépette, mais t'es malheureuse comme les blés. T'es fraîche et bien roulée.
Pépette, c'était Java sur France Inter.
France Inter. La Terre au carré.
T'as que 134 abonnés, comment c'est possible?
Oui, c'est ce que je t'ai dit, Justine, t'es une chef célèbre. Tu devrais en avoir 10 fois plus, dans les 10 000 au moins.
Voilà.
Bah, le restaurant a un Insta, mais Jerry veut que j'aie mon propre compte parce qu'il dit qu'il faut se montrer pour que ça marche.
Oui, tes abonnés veulent voir ce que tu prépares à ton fils pour le petit-déj, ce genre de truc, c'est toute leur vie ces conneries.
Mais... le patron de mon pressing a 2000 abonnés.
Quoi? Mais demande-lui carrément de te taguer la prochaine fois que tu passes récupérer tes fringues. Bon, d'abord, faut que ton compte soit certifié. Ensuite, on mettra un lien avec ton Facebook, puisque t'insistes pour le garder. Juste pour info, Facebook, c'est dead.
Facebook, c'est dead?
Ouais. Bon, et aussi, faut que des gens te taguent, mais tu connais plein de gens célèbres, c'est pas un problème.
Pas vraiment, non?
Idéalement, tu prends un selfie avec eux et tu les tagues. Mais c'est mieux si c'est eux
mais
qui taguent.
Mais je sais pas faire ça, moi, me prendre en photo avec des stars et leur demander de me taguer après.
Tu rigoles? C'est toute leur vie, ces conneries.
On est synchro.
Bon, c'est pas grave. Même si y'a que toi qui tagues l'autre, ça peut quand même te rapporter des abonnés.
Extrait de la série On the Verge de Julie Delpy sur Canal+, la multiplication des supports. Ben c'est vrai qu'on nous incite en permanence à augmenter notre visibilité, Guillaume Pitron.
Hein. Ben là, on voit que les deux jeunes femmes sont accros. Hein.
Ouais, mais on
l'une est en train
peu,
de le devenir et l'autre l'est déjà. Et ça raconte aussi qui est accro, qui est finalement succombe à ces techniques aussi, qui sont les techniques marketing, techniques mises en place par notamment les GAFAM pour nous rendre toujours plus accros à nos objets, à nos écrans. Ça
mais
va générer de l'attention. Et donc
même
de
les dirigeants aujourd'hui, je veux dire, tous absolument. Les présidents ont des TikTok, des Instagram, des Facebook, des Twitter et tutti quanti. Donc de toute façon, c'est... on a un message de Julien qui nous dit justement notre vie est totalement technologique et numérique. Revenir en arrière semble impossible. Nous avons besoin de mails, de l'accès infini à la connaissance également. Quelles idées pour avancer dans le bon sens sans détruire cette évolution? Ça ressemble à un problème insoluble, nous dit-il.
En fait, d'abord, il n'est pas question de revenir en arrière. Bien évidemment que
vous allez me faire le coup de la lampe à huile, c'est ça?
Absolument pas. Et j'ai été. D'abord, il faut savoir que objectivement, les technologies, et notamment par exemple dans le monde des centres de données, permettent de stocker les données chaque jour, chaque année, toujours mieux que précédemment, avec un gain, avec un coût énergétique qui est moindre. Donc ça, c'est une optimisation qui est réelle. Mais par ailleurs, je pense que ça pose une question, et ça ne suffira pas parce que de toute façon, cette consommation explose. Je pense que la vraie question, Camille Cronier, en fait, il y a un bon Internet, il y a un mauvais Internet. Le numérique n'est pas ni bon ni mauvais, il est ce que nous en ferons. On peut en faire des usages parfaitement inutiles à la société, comme on peut faire des usages absolument indispensables. L'hôpital connecté, bien évidemment que c'est nécessaire. TikTok à longueur de journée, peut-être qu'on peut y réfléchir. Mais qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? Et chacun vous répondra à une question différente. Je pense que ça pose des questions qui sont des questions beaucoup plus sociétales, beaucoup plus politiques, mais ça pose la question de l'interdit potentiellement dans nos sociétés. En Chine, hier, la Chine a interdit TikTok aux enfants de moins de 14 ans plus de 40 minutes par jour.
Ah bah.
Ça, c'est une vraie question. Et ça, mais il faut s'appeler la Chine hein, pour pouvoir faire des choses pareilles. Mais il y a tout d'un coup la question de l'interdit qui se remet là-dedans au nom de ce qui est bon et de ce qui est moins bon.
Ouais, Chine a interdit aussi les MMORPG, les jeux en ligne multijoueurs. Ils ont limité le nombre d'heures d'usage des MMORPG.
Alors Margot nous écrit de France, alors elle dit, doit-on limiter plutôt que d'interdire la consommation des réseaux sociaux pour les utilisateurs chaque jour? Ce serait déjà une forme d'éducation aussi à ces questions?
Ah bah, Florence Prodin. Moi je serais pour limiter l'usage de ces outils déjà à l'université et dans les écoles, puisque les universités sont un haut lieu de pollution à l'heure actuelle.
Mais qu'on voulait faire? Interdire quoi?
Ah ben...
qu'on aille sur son téléphone?
Bah, interdire le smartphone. Par exemple, interdire le smartphone dans tout le système éducatif.
Ah, carrément.
Okay. Ah, bah oui.
Ok.
Est-ce que vous avez besoin d'un smartphone quand vous êtes pendant un cours de maths? Non, vous n'en avez pas besoin. Et pourtant, les jeunes, ils sont attirés.
Officiellement, dans les établissements scolaires, les collèges, les lycées, les téléphones
déjà.
Sont interdits en classe.
Oui, mais pas à l'université.
Ouais. Jean-Paul sur Facebook nous met face à un paradoxe, Mathieu.
Oui.
La prolifération de présence de nombreux médias, y compris comme votre émission sur d'autres plateformes, Facebook, ouais, Instagram.
Absolument.
Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça?
J'ai envie de croire que c'est le bon Internet, mais encore une fois, je vous trouverai que c'est une réponse sous forme de fuite. J'admets volontiers mes contradictions là-dessus. Je suis sur les réseaux sociaux, j'ai besoin de ces réseaux sociaux pour communiquer et pour aller trouver de l'information. Ouais. Il s'agit pas de se...
Non, mais c'est une vraie question pour nous. Par exemple, une émission qui parle d'environnement, d'écologie. Est-ce qu'on doit avoir un compte Instagram, Facebook, Twitter? Est-ce qu'on doit inviter nos auditeurs à aller sur une application France Inter pour envoyer des messages? C'est une vraie question aujourd'hui.
Et moi, j'ai voyagé sur la Terre entière par avion pour raconter ce que je vous raconte dans un livre. Mais je pense que c'était utile. Donc, il y a probablement des bons usages d'Internet.
Oh là là, vous ouvrez un autre grand débat là, comme ça, vite fait, bien fait, Guillaume Pitron. En tout cas, amis auditeurs, réagissez sur le répondeur par rapport à ces discussions. 01 56 40 45 45 parce qu'on a envie de vous entendre sur ces questions, parce que nous aussi on est en transition finalement.
C'est très compliqué.
Et c'est un peu compliqué à gérer. Voilà, merci beaucoup à tous les deux. La nouvelle religion du numérique, c'est aux éditions EMS, et Guillaume Pitron, l'enfer numérique, c'est au Lien qui libère. Merci à tous les deux.
Merci.